La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Par où dire ?
Igloo, label musical. 40 ans, 40 artistes, 40 pochettes d'albums, exposition à l'ERGUE, école de recherche graphique, du lundi au vendredi, située rue du Page 87 à Ixelles jusqu'au 12 octobre. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Alechinsky.
Authentique, me tento, me tento, me tento, m'stelle.
Le monde invisible.
Igloo, 40 ans. Avec Christine Jotard, Jérémy Vandenbulk, André Dalle, Pierre Cordier, André Lambotte, Alain Denis. Et Daniel Sautio. Daniel Sautio.
Igloo, en fait, a deux stades. Il y a un stade d'adolescence, puisque je suis dans la région de Charleroi, avec des amis. On décide de faire une espèce de petit journal, un petit journal à la mode underground de l'époque. On va l'appeler Igloo. On va l'appeler Igloo après un jeu un peu dans la logique des surréalistes. Hein. On a un dictionnaire, on se donne des règles, et puis on arrive sur ce nom-là qui n'était pas prémédité du tout, mais qu'on a adopté et qui a donné cette édition pendant 3-4 numéros, quelque chose comme ça. Enfin, numéro étant un bien grand mot, puisque c'est polycopié, avec des carbones aussi. Enfin, c'est hyper artisanal, donc ça ne tient évidemment que le temps de notre envie. Puis ça disparaît. Et quand, quelques années après, on crée une ASBL en vue de produire des supports sonores, on se pose la question du nom, et puis je me dis, bah tiens, finalement, c'est un beau souvenir, ce petit passage à l'édition Underground, on va garder ce nom-là, et c'est comme ça que l'ASBL va s'appeler Igloo.
Igloo, 40 ans, par Thierry Genico. Daniel Sautio, qui est ce « on » et ce « nous » ?
L'adolescence, ce sont des amis de l'Athénée, dont un artiste qui s'appelle Michel Dewell, qui a fait quelques expositions, mais là on parle d'une époque de plus de 40 ans. Et puis, en 1978, quand on crée l'ASBL de production discographique, en fait ça se crée pendant une nuit. Nous sommes avec un ami... qui s'appelle Jean-Paul Ganti, qui est un comédien habitué des scènes où il donne des récitals de poésie, des récitals engagés, des récitals de poètes belges et autres. Et donc il est là-dedans. Et puis il me dit, ça fait longtemps que j'ai envie de faire un disque, et bah, il n'y a pas de structure en Belgique pour ce type d'enregistrement. Les sociétés installées, les multinationales souvent, ne sont pas preneuses du tout. Et dans cette nuit, on se dit, bah, on va faire ce disque. On se lance dans l'aventure, Jean-Paul et moi, pour faire ce disque, en ne connaissant rien du tout au métier de l'enregistrement discographique. Absolument rien. Et on va donc tout apprendre sur le tas. D'abord, trouver un studio. Alors là, de bouche à oreille, j'entends parler de Daniel Léon, qui vient de terminer ses études à l'INSAS et a créé un studio près de la gare du Midi qui s'appelle le Studio Caramel, qui est une petite unité. Je vais chez lui, je dis, voilà, on me dit que vous faites des enregistrements. Je dis, oui, je dis, est-ce que vous pouvez, parce que j'ai envie de faire un disque. Il me répond, c'est une très mauvaise idée, mais on le fait quand même. Et puis on apprend à trouver des imprimeurs, des graveurs, des presseurs. Et on arrive à faire ce premier disque de Jean-Paul en 1978.
Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Christine Jotard.
Igloo, ben je pense. Un cocon dans une mer de glace.
C'est un peu l'image qu'on a voulu donner au label, un slogan qu'on a utilisé pour définir un petit peu le label, un lieu d'accueil pour les artistes. Daniel Sotio, je pense, en premier lieu.
Ce qui est amusant, c'est que finalement, on aurait pu en rester là, parce que le contrat de départ, c'est finalement de faire cet enregistrement-là. Il n'y a pas un projet de dire « on crée une maison de disques ». Pas du tout. On fait un disque.
It was a beautiful day.
Un disque entraîne quelque chose, des réactions, entraîne autre chose, et cette autre chose, c'est un deuxième disque, puis un troisième, puis un quatrième. D'abord amené par les amis proches, qui suggèrent, ou qui ont eux-mêmes des choses à proposer, des amis de Charleroi, puisque c'est de là que je viens. C'est le cas, par exemple, d'Henri Krutzen, c'est aussi le cas de la Maison du Jardinier, de Jean-Luc Saussin. Donc là, c'est le nid de mes amis de Charleroi. Et puis aussi, d'autres personnes vont nous suggérer des projets, comme le disque d'Arthur Petronio, qui sera le second, qui est un homme qui vit à ce moment-là dans le sud de la France, dans le Luberon, qui a 82-83 ans, compositeur, ancien directeur du Conservatoire de Lille, et poète, a inventé une composition particulière qu'il appelle la verbophonie, et qui est une composition à la fois musicale, parce que c'est donc un compositeur de musique, et à la fois poétique. C'est quelque chose d'assez particulier, et on va éditer ce quelque chose de particulier quelques mois après le disque de Jean-Paul Ganty, ce qui nous donne donc une logique très poétique au début, puis ça sera la musique électronique, et voilà, 40 ans plus tard, 457 disques plus tard, 500 000 disques plus ou moins vendus plus tard, on est toujours là avec Igloo.
Voit-on de vous ici à l'ERC, Alain Denis ?
Une œuvre très récente, à connotation abstraite sans tout à fait l'être. Parce que même si ça paraît abstrait, c'est toujours issu d'une certaine réalité. Des papiers découpés de choses figuratives dont j'ai enlevé toute la signification figurative et j'en recrée une composition que j'agrandis sur la toile.
Et comment se fait-il que votre travail ait été montré ici à l'ERG ?
Parce qu'il y a quelques années, j'ai fait une pochette pour un CD de Greg Houben. Il se fait que quand j'étais adolescent, je suis verviétois, mais je n'y habite plus depuis de nombreuses années, quand j'étais adolescent, j'étais très ami avec son papa, avec Steve. On écoutait du jazz ensemble, et Greg a fait toute son école primaire avec un de mes fils, et je ne l'ai jamais perdu de vue. Et Greg m'a demandé un jour, est-ce que tu ne pourrais pas créer une... Et je n'ai jamais accepté des commandes, parce que j'ai ça en horreur. Mais par contre, il est venu à l'atelier, et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qui te semble ? J'ai écouté sa musique, et nous sommes tombés d'accord pour cette peinture-là.
Historiquement, il m'a raconté que Igloo était le nom d'un fanzine qu'il réalisait pendant son adolescence en humanité et qu'au moment où il avait fondé le label, il n'avait pas une idée particulière de nom et il avait repris celui-là.
Guy Rémy Van Den Bulk, comment se sont passées les choses ?
Eh bien, j'ai eu une complicité avec Michel Massot, musicien, tromboniste... qui joue dans plusieurs groupes comme Trio Grande, Trio Bravo, et qui a constitué un nouveau groupe d'exploration musicale qui s'appelait Batiscaf. J'avais déjà collaboré avec lui dans le cadre d'une exposition chants visuels et chants sonores qui était organisée à l'époque à la Médiatine, au centre culturel de Woluwe et Saint-Lambert. La directrice Solange Wonner qui nous avait mis en contact. Moi, je travaille beaucoup en écoutant de la musique, notamment de la musique de jazz, etc. Donc voilà, on a discuté un peu du travail qu'on faisait chacun. Et à cette époque-là, je faisais des personnages en fil de fer pour une installation sonore. Et lui a utilisé les mêmes matériaux, fil de fer, marteau, baguette de métal, etc., frappé, frotté, avec des sons de voix, etc. Tout ça a dialogué ensemble. Ça, c'était une première collaboration. Et puis, il y a eu la création de ce groupe Batiscaf. On est reparti sur autre chose, découverte d'un autre univers. Là, c'était en deux dimensions, par rapport à sa musique aussi, qui était la sienne et celle de Michel Dubrul, percussionniste, avec d'autres, c'était une exploration des sons, des univers sonores, des rythmes, des voix. Et l'idée du Batiscaf, c'est l'immersion dans les profondeurs à la découverte de mondes inconnus, mystérieux. Et donc, voilà, ça m'a beaucoup inspiré. Et justement, à ce moment-là, j'étais dans une période de peinture de coques de cargo qui ont vécu les traces du temps, etc., où il y a certaines oxydations au fil de fer aussi dans les illustrations que j'avais faites pour cette pochette de disque. Un rappel à la première collaboration qu'on avait eue ensemble. Une image qui évoque un peu un engloutissement, si on se perd dans les profondeurs à la recherche d'images peut-être un peu floues et qui se reconstituent par moments, qui reviennent, qui repartent, qui disparaissent, qui renaissent. Je pense un peu au gré de leur recherche musicale également.
Le jazz est souvent associé à la couleur bleue, qui est une couleur froide, et pourtant, le jazz est une musique pleine de feu.
Et quand vous dites label, ça veut dire ?
Plutôt que label, on disait un atelier de production. C'est un atelier qui permettait aux artistes de réaliser des enregistrements dans des conditions, je dirais, plus professionnelles. Puisque à l'époque où ça a été créé, en 78, il y avait très très peu de maisons de disques qui produisaient du jazz. C'est pas une musique très très rentable, c'est pas une musique de hit parade, c'est une musique plus de la diversité, des rencontres. En même temps, c'est une musique de niche, donc c'est un créneau un peu étroit, c'est pas une musique commerciale.
Il y a des points d'ancrage. En tout cas pour moi, à partir de là, le Batiscaf est comme l'igloo, une espèce de boule, de sphère, d'enveloppe, qui ne disparaît pas complètement, qu'on retrouve malgré tout dans les profondeurs des océans. Et donc dans l'image aussi, on en retrouve des traces, mais en même temps ça se dilue, ça éclate quelque part dans d'autres formes, comme dans la peinture qui est accrochée ici et qui est en rapport avec la pochette du CD de l'époque. Une peinture d'ailleurs qui date de la même époque, qui était dans la même démarche à ce moment-là. Les années 97, je me souviens bien. Exposition au mois d'avril à l'association du patrimoine artistique qui reprenait une sorte de balayage de mes dernières années de peinture. Je travaille sur d'autres thèmes de personnages en chute ou en suspension dans l'air libre. Il y a peut-être tout à coup, en vous parlant, je me dis qu'il y a un rapport à faire avec le bathyscaphe où là c'était une immersion dans le liquide. Ici, on est plutôt dans l'aérien, pour le moment en tout cas, dans la démarche que j'essaye d'approfondir un peu pour le moment. Voilà. Entre l'élévation, la mise en danger, la chute, la retombée, l'envolée, le tourbillon, les turbulences.
Marc Moulin aussi a joué un rôle très important parce que Marc Moulin, on s'en souvient peut-être pas parce qu'on connaît surtout le groupe Placebo, Telex, qui ont été effectivement des grands succès, mais à un moment donné, en 1977, 76-77, il reçoit un espèce de blanc-seing de la part d'une grosse société multinationale pour créer une collection discographique qu'il va appeler Kamikaze. Et il va sortir en fait 4 disques sur Kamikaze, et des disques essentiels. Il y a le Aksak Maboul de Mark Hollander, qui a été réédité à plusieurs reprises, et un disque important. Il y aura les Tueurs de la Lune de Miel, autre disque important et autre groupe important de notre Belgitude. Et il y aura le quatrième, un disque qui s'appelle Noises, et dans ce disque-là, il y a une pièce de Marc Moulin, et Marc Moulin utilise une phrase bien connue des auditeurs et des téléspectateurs belges qui ouvrent traditionnellement, ou qui ouvraient traditionnellement les discours du roi Baudouin par « chers compatriotes », et il utilise cette formule d'entrée avec la voix du roi Baudouin et qu'il va trafiquer électroniquement. Et pendant 21 minutes, je pense, il y aura un développement de cette séquence musicale. Donc ce sont des personnes absolument essentielles. Et quand Igloo se développe, donc après 1978, l'aventure Kamikaze est finie et quelque part, elle nous influence aussi énormément.
Vous dites atelier, enregistrement. Donc Igloo produisait des disques, mais pas des concerts.
À l'origine, non. On s'est toujours situé plutôt comme une maison de disques, et c'est un peu l'évolution aujourd'hui du marché, hein, je mets le mot entre guillemets, du marché musical, qui nous a conduit à développer une partie de concerts, parce que avec l'effondrement de la distribution, l'effondrement de la vente des supports, qui nous touche relativement peu directement, parce que nous continuons à vendre des supports, parce que je pense que la plupart des véritables amateurs de musique l'écoutent encore sur des supports de qualité. C'est un peu comme la musique classique, en fait.
On est dans une époque où tout s'influence les uns les autres. Les activités, les initiatives rebondissent et c'est tout un climat dans lequel on est, un climat d'une créativité extraordinaire, un climat où je pense que tout le monde essaye de s'approprier les moyens pour créer, pour exister, pour se diffuser. C'est le moment des radios libres, ne l'oublions pas. C'est le moment des télévisions communautaires. C'est le moment où le théâtre, où les jeunes metteurs en scène vont investir des lieux, des casernes abandonnées, des raffineries abandonnées, telles le Planca, le théâtre de banlieue, etc. Une existence à côté des grandes institutions, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées. Et nous, on est dans le même processus. C'est se créer, se donner des outils de production pour l'expression d'artistes qui utilisent le son, l'expérimentation sonore, la musique, pour dire un certain nombre de choses et qui ont besoin aussi d'une alternative à côté de ce monde des multinationales. Une des expressions de Marc Moulin, c'est les troisièmes musiques. C'est ni le classique, ni la variété entre les deux. C'est notre créneau. Et c'est le créneau depuis le départ et dans le créneau dans lequel on est toujours aujourd'hui.
Mais ça nous a conduit à devoir plus développer le concert parce que les disques se vendent beaucoup en concert. Les gens aujourd'hui savent que ce genre d'enregistrement, ils ne vont pas le trouver facilement au magasin du coin quand il en existe encore. Et donc, ils achètent en concert.
Christine Jotard, y a-t-il une ligne esthétique dans Igloo ?
Il y a plusieurs lignes esthétiques. C'est vrai qu'au départ, la ligne esthétique était très différente, puisque au tout début, les premiers disques étaient vraiment des disques de musique, musique improvisée, musique électronique, de la poésie sonore. Enfin, c'était de la musique, comme on dirait aujourd'hui, un peu très en marge et expérimentale. C'est vrai que historiquement, par la suite, Igloo s'est rapproché du label LDH, qui était un label de jazz que j'avais fondé avec Daniel Léon et des musiciens. Et bon, le jazz a petit à petit pris le pas sur le reste, parce que c'est aussi quand même malgré tout une musique plus accessible et qui a un plus large public. Mais il y a différentes lignes, puisque le jazz, par essence, est une musique qui se mélange, qui se métisse avec des tas d'autres formes musicales. Donc on a ouvert à un moment donné une ligne plus musique de monde pour des mélanges jazz-musique du monde. On a gardé une ligne Igloo plus pour des projets qu'on n'arrive pas à classer.
Il y a des relais à cette époque qui sont extraordinaires. Quand on parle des festivals, il y a chant, il y a le temps des cerises. Hein, c'est quand même des rassemblements de créativité, de groupes, mais aussi d'énergie diverse. C'est un fourmillement et c'est amplifié par des gens qui sont à la radio.
André Dalle, votre travail est à côté de celui d'André Lambotte. C'est la question du rythme qui vous anime ?
Oui, probablement. D'ailleurs, André Lambotte est un ami et on a eu depuis longtemps des affinités dans nos travaux communs. Ça remonte, je dirais, aux années 70, à une exposition collective à la Maison de la Culture de Namur. C'était une exposition qui tournait autour d'Henri Michaud. Ça s'appelait Papier peint 10 plus 1, donc c'était le 1 Henri Michaud et 10 artistes de la communauté française qui participaient à ça. Et beaucoup de gens qui étaient axés fort sur l'écriture, donc ce qui ramène autant aux travaux d'André Lambotte qu'à mon travail. Et uniquement donc des gens qui travaillaient sur papier, encore une fois, comme le titre disait. Mais voilà, sinon, au fil des années, on s'est revus et je crois qu'il y a des similitudes, même s'il y a un côté plus figuratif, je dirais, dans ce que je fais, même si ce n'est pas une figuration qui repose sur des modèles préexistants, mais qui se construit au fil de l'écriture.
C'est quand même globalement une autre époque, et on trouve ces relais dans toutes les couches de l'activité culturelle, et il y a toute une série de gens qui sont donc dans ces institutions, même si on se crée à côté des institutions, qui sont des relais essentiels.
Jazz a été une étape fort importante, c'est comme ça que je me retrouve dans cette exposition, c'est-à-dire que de septembre 80 à juin 85, j'ai tenu à Bruxelles un club de jazz qui s'appelait le Bloomnido Jazz Café, qui était un endroit qui tournait bien, qui avait une assez grande salle qui pouvait accueillir 300-350 personnes. Donc on pouvait se permettre de faire des concerts quand même d'une certaine importance. Il y en a eu 250 sur les 5 ans de la relativement brève existence de ce club, un peu comme tous les clubs, je dirais. Avant d'ouvrir le Blum Dido, moi j'étais graphiste déjà, donc je travaillais comme graphiste et je faisais des expositions. Tout ce travail était là depuis fort longtemps. Donc quand le Blum Dido a dû fermer ses portes, parce que c'est bien « a dû fermer ses portes », je me suis retrouvé à travailler pour des gens qui tournaient vraiment autour de la musique. C'est comme ça que j'ai travaillé pour les principales salles de concert bruxelloises, que ce soit l'ancienne Belgique, le Burskauburg, le Botanique, le Palais des Beaux-Arts. En même temps, à travailler également pour faire des pochettes pour des maisons de disques, dont Igloo. Et j'ai fait, je pense, une dizaine, 10-12 pochettes pour eux au fil des années. Voilà. Et là, il y avait des pochettes qui étaient Trio Bravo, Akamoun, La Grande Formation, Pierre Vaiana, et d'autres musiciens belges qui ont enregistré sur ce label.
Nous parlons, Daniel Sotio, dans une école qui s'appelle École de Recherche Graphique, où il y a une exposition non pas de disques, mais d'artistes ayant collaboré.
Nous avons toujours, au niveau du label, et ça dès le début, eu un rapport au monde artistique pour présenter les enregistrements.
L'inspiration première, quand on fait une pochette de disque, je dirais que c'est plutôt au niveau du titre de l'album et du titre des morceaux, où on essaie d'être un petit peu en adéquation avec ça, quoi. Mais ce n'est jamais ou quasiment jamais un reflet de la musique. Simplement deux choses qui se mettent en parallèle, quoi. L'image, le son et le texte, puisque les titres interviennent aussi, quoi.
Peut-on parler de résonance, André Dalin ?
Oui, certainement. D'ailleurs, dans mon travail, comme vous avez vu une pièce ici, je pense qu'il y a une dimension clairement musicale. On peut voir mes dessins presque comme des partitions, je dirais. Hein. Silencieuses, mais des partitions quand même.
Mais c'était Philippe Catherine, le grand musicien de jazz, un ami depuis toujours. Il avait le projet de faire un disque qui s'appelait Oscar, qui était le nom de son père.
Pierre Cordier.
Et alors, je crois que c'est Godefroy qui est venu me chercher.
Jean-Louis.
Jean-Louis Godefroy. Et qui a dit, tiens, tu pourrais peut-être faire une illustration. Et j'ai été choisir un musigramme, justement, un musigramme, donc un chimigramme en forme de partition.
Daniel Sotio, les plasticiens qui vont venir, c'est vous qui allez les chercher, eux qui viennent à vous ?
Il y a eu tous les cas. Et ce que nous montrons dans l'exposition, c'est un choix de différents types de rapports que l'on peut avoir.
Ici, j'ai exposé un autre musigramme, un musigramme contemporain, mais que je n'ai pas fait tout seul, que j'ai fait avec une artiste autrichienne, peintre, qui s'appelle Gundi Falk.
Il y a dans l'exposition des plasticiens qui ont créé une œuvre, à qui on dit voilà, c'est ça qu'on veut faire, on pense à vous, qui vont imaginer le travail plastique qui pourrait servir d'illustration pour cet enregistrement-là.
Des islamgrammes, des démogrammes, d'après Borges, c'est le plan de la ville de Buenos Aires, où habitait Borges, topogramme.
D'autres où on pense qu'il y a un mariage possible, on est à l'origine ou pas de ce mariage, parfois c'est l'artiste musicien qui l'amène, mais dans un certain nombre de cas c'est nous, on pense que cet artiste pourrait convenir pour cette musique, on les met en contact et ils choisissent à l'intérieur de leur œuvre picturale et le mariage se fait ainsi. Dans d'autres cas, je me souviens pour un disque de Majid Bekas, qui est un joueur de oud marocain, l'artiste qui avait été choisi, a passé des heures et des heures à écouter quasiment en boucle la musique afin de savoir exactement l'image qu'il avait envie de proposer. On a vraiment beaucoup de cas de figure. Il n'y a pas une recette unique. Et alors une autre particularité, elle est aussi dans l'exposition, c'est que nous avons plusieurs artistes plasticiens. Je pourrais parler d'Henri Chopin, je pourrais aussi parler d'Arthur Petronio, qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure. Ce sont des artistes plasticiens qui ont vraiment une œuvre picturale connue et importante. Ce ne sont pas eux qui font la pochette. On aurait pu dire à Chopin, bah, tu vas prendre un dactylo poème ou un travail que tu fais, ça serait une très belle pochette. Il y a d'autres disques qu'il a fait qui fonctionnent sous cette forme-là. Là, ici, pas du tout. C'est, dans le cas de Chopin, de nouveau Alain Géronès qui va réaliser la pochette. Et il n'y a pas la moindre référence au travail pictural. Donc c'est aussi un autre type de rapport de construction entre l'art plastique et l'art musical. Et quand c'est dans le chef de la même personne, on peut aussi le décoder différemment. Et puis alors, on a des pochettes qui sont réalisées par des grands non des arts plastiques, je pense à Leschensky. Il y en a deux avec des œuvres d'Leschensky, mais là c'est une demande qui est faite. Jacques Calonne, qui va éditer un disque chez nous, tant que chanteur ténor mondain, comme il dit, il a un dessin qu'Leschensky a fait de lui jouant au piano, mais on demande l'autorisation de reproduction. C'est vraiment très multiple. Il n'y a pas une porte d'entrée unique, il faut chaque fois la construire en fonction du projet, de la musique, des individualités que sont les artistes musiciens.
Igloo, label musical, 40 ans, 40 artistes, 40 pochettes d'albums, exposition à l'ERG, école de recherche graphique, du lundi au vendredi, situé rue du Page 87 à Ixelles jusqu'au 12 octobre.
Le problème, c'est que dès qu'on entre un peu dans le système commercial et dans la distribution, malgré tout, il faut mettre des étiquettes, sinon, voilà, c'est plus compliqué.
Igloo, 40 ans.
Un artiste, parce qu'il a un talent propre et qu'il rencontre une musique, peut lui donner une autre dimension. Et surtout quand nous étions au temps du 33 tours, où la surface d'expression, quand même 30 cm sur 30, permet à un artiste de développer un projet graphique particulier. Mais donc, surtout au début, on va avoir de grands rapports avec les artistes plasticiens. Au-delà des graphistes, je dis bien des artistes plasticiens. Le premier disque, celui de Jean-Paul Ganty, c'est Jean-Louis Godefroy, photographe qui sera l'auteur des photos, à la fois photos de l'artiste et aussi une photo personnelle au verso de l'album. Et puis,
Daniel Sotio.
Nous avons une rencontre particulière, grâce à Jean-Louis Godefroy justement, c'est avec Alain Géronès. Et Alain Géronès, qui est un artiste qui à ce moment-là travaille surtout au sein d'un groupe qui s'appelle 5004, va être le premier enlumineur des disques Igloo, puisqu'à la fois il va créer le logo, qui est toujours 40 ans après notre logo, et il va créer les 14 premières pochettes du label. Et quand je dis créer, c'est vraiment un travail profondément artistique qu'il nous propose à chaque fois. Il a une très grande indépendance dans ses propositions. Il dialogue, bien sûr, avec les musiciens, mais il vraiment développe sa propre création au travers du médium de la pochette qu'il doit réaliser pour tel ou tel enregistrement. Et il se fait que Alain Géronès a été professeur ici à l'ERG et qu'il est décédé, on le sait, il y a peu de temps, il y a un peu plus de 2 ans. Et ça nous paraissait bien, à la fois parce qu'il y avait ce projet dans les multiples activités que nous organisons pour le 40e anniversaire d'Igloo Records. On a des concerts, bien sûr, on a des conférences, on a toute une série de choses. Mais on voulait mettre aussi en avant ce rapport à l'expression plastique qui n'est peut-être pas tout de suite évidente quand on parle de disque.
Мальчика, камни и волки в яслях. C'est peut-être en raison de son complexe envers Beethoven que Schubert ajoute un huitième instrument lorsque ses amis lui suggèrent de composer une œuvre aussi proche que possible du Septuor de Ludwig.
Il va réaliser en particulier, et c'est sans doute la pochette sur toutes celles qu'on a réalisées, qui est la plus folle de toutes, c'est la pochette pour le disque de Gottfried Wilhelm Raas, qui s'appelle Benelorgel. Gottfried Wilhelm Raas avait inventé une machine, en gros d'une septantaine de centimètres sur 50 centimètres de haut et quelques centimètres de large. Et sur cette machine, il y a toute une série de sonneries, différentes sonneries, une trompe de brume, une sonnerie d'école, une sonnerie de vélo, etc. Il y a toute une série de sonneries. Il met en place un mécanisme électromécanique qui déclenche ces sonneries de façon aléatoire. Et notre disque est l'enregistrement aléatoire de deux séquences produites par cette machine aléatoire de sonneries déclenchées sans qu'il y ait la moindre intention connue avant, puisque c'est la machine qui le dégage. Et Alain Gironès va inventer une pochette également aléatoire. C'est une sérigraphie et toutes les pochettes qu'il va tirer lui-même, il y a 8 passages pour chaque pochette en sérigraphie. Chaque pochette est différente les unes des autres, parce qu'il ne va pas utiliser le système traditionnel des repérages graphiques, mais donc va laisser le hasard jouer dans la mise des différentes couleurs. C'est bien que quand on regarde ces pochettes les unes à côté des autres, il y a toute une série de nuances et de différences. Voilà, ça c'est quand même quelque chose d'absolument remarquable, et aujourd'hui on peut dire que c'est une pochette collector dans tous les sens du terme, parce que ce disque et cette pochette n'ont été faites qu'à 300 exemplaires.
Mais comme on dit,
the show must go on,
on dirait,
the snow must go on,
ou encore,
the snow must go at home,
on dîne glacé,
the snow is dancing, Debussy,
snow, no,
die Schnee in Danzig, Solidarnosc.
Carbonique.
La neige. Ah, comme la neige a neigé.
Neige.
Neige.
Neige. Neige.
Neige.
If you're listening to this song, you may think the chords are going wrong.
Car s'il ne neigeait plus, ne gelait plus
de flocons.
Comment pourrait-on hiverner ? On entendrait les transistors gueuler
plus de flonflon
toute l'année, et les gens transis seraient en transe tout le temps. Je suis intransigeant sur la nécessité
de l'hiver,
d'un hiver,
d'un
manteau de neige.
Si on vous entend, Alain Gironès.
Oui, c'est le point faible, à mon avis, du CD. J'ai vraiment du mal à m'entendre et je trouve que je ne lis pas très bien.
Son intérêt pour le son l'a aussi amené à nous proposer lui-même des projets. Je pense au disque que nous avons fait avec Jacques Beckart. À un moment donné, il me dit, mais voilà, tiens, j'ai une idée, il faudrait qu'on contacte Jacques Beckart, qui vivait à ce moment-là en Thaïlande, qui avait déjà réalisé un disque aux États-Unis. Et c'est lui qui nous a poussé à avoir ce contact, parce qu'il connaissait mieux ce travail que d'autres, que moi en l'occurrence.
...1970, l'hebdomadaire du troisième programme. Numéro 96.
Au micro, Arlette Dupont
et Jean-Louis Jacques.
Le livre que Jacques Beckart vient de consacrer à John Cage et qui vient de paraître aux éditions Wirkant n'est pas un livre ordinaire. On va en savoir tout de suite plus long, mais la chose n'a rien d'étonnant en soi puisque son auteur, qui est un jeune compositeur élève de Henri Pousseur, est connu pour avoir déjà organisé autour de Cage des canulars tout à fait d'ailleurs conformes au génie propre du musicien qui en était l'objet. Richard Talich a rencontré Jacques Beckhardt.
Jacques Beckhardt, vous faites publier aux éditions Wirkent un ouvrage sur John Cage, qui n'est pas exactement un livre d'ailleurs, c'est une boîte. Pourquoi ?
Bien, c'est une boîte, non pas par goût du bizarre, mais parce que je voulais essayer dans cette chose, qui n'est d'ailleurs pas uniquement de moi, qui est le fruit d'une collaboration de toute une série de gens, belges et étrangers, je voulais essayer de cerner le plus près possible l'esprit même de John Cage. Et je crois que ce n'est pas en faisant un ouvrage très académique, très grave et très austère, que permettait le plus facilement d'approcher le fond même de l'œuvre et de la pensée de John Cage.
Mais l'avenir d'Igloo, c'est un peu un point d'interrogation pour le moment, en tout cas un point de réflexion, puisque nous sommes occupés, on a ouvert un peu un chantier dans ce sens-là, parce qu'il est clair que, comme je vous l'ai dit, la distribution classique est en train de péricliter. Nous avons déjà depuis un certain temps ouvert tout ce qui était plateforme numérique, mais on sait très bien que le numérique ne permet pas de rentabiliser une production, surtout pour la musique de niche. Tout ce qui est streaming, etc., est en train de tuer un petit peu tout ce qui est indépendant. Et donc, il faut essayer de trouver d'autres sources pour pouvoir continuer. Et on est en plein dans cette réflexion-là. Je pense, moi, qu'il y aura différentes choses qui vont coexister. Je ne crois pas vraiment à la mort du support et du CD. On a vu la résurgence du vinyle, qui, je crois, est un peu anecdotique, mais je pense que, voilà, il y a des choses qui sont un phénomène qui est lié à la musique et à la manière dont elle est consommée par les jeunes. À partir du moment où on accède à d'autres choses en musique, on a envie de l'écouter d'une autre manière, je pense, que sur son ordinateur. On a un besoin de qualité sonore qu'on n'a peut-être pas quand on est plus jeune.
Je crois qu'il y a longtemps que cette analogie, cette complicité avec la musique et mon travail art plastique existe. J'étais musicien avant d'être plasticien. Mais très vite, le peintre a pris le dessus sur le musicien de jazz, qui n'existe plus. Mais le dialogue, les relations entre la musique et les arts plastiques, je dirais même qu'elles me passionnent. Et de nombreuses reprises, ce dialogue perdure. Et je m'en réjouis parce que quand je suis dans mon atelier, par exemple, c'est toujours en musique. Bon, j'avoue tout de même qu'une fois qu'on se concentre, on entend la musique, mais on n'écoute plus vraiment. En dehors de ça, la musique est une passion pour moi. Ce n'est pas une musique systématiquement répétitive qui m'intéresse, et ce n'est pas non plus un travail répétitif dans le sens, je vais dire, étroit du terme qui m'anime.
C'est une répétition, mais elle est modulée par des interférences, par des inattendus, des surprises. Je n'aime pas la musique répétitive trop orthodoxe, même si Steve Reich est quelqu'un que j'apprécie, que je respecte beaucoup. Mais il y a des ostinatis de presque tous les grands musiciens, aussi bien baroques que contemporains que dans le domaine du jazz, qui ne sont que des répétitions qui approchent la répétition, mais qui ne sont pas vraiment répétitives. Mais comme toujours, il faut se méfier des malentendus. Mais j'accepte qu'on dise que mon travail est répétitif, à condition qu'on admette et qu'on observe, c'est pas difficile d'observer, que ce n'est qu'en apparence, les structures sont répétitives, le rythme, on peut dire, est répétitif, mais au-delà du rythme, il y a toute une série, j'espère, de variations qui ne sont pas particulièrement semblables les unes aux autres, au contraire.
André Lambotte.
Oui, bien sûr. Ben, André Lambotte, également musicien, également, il a joué dans des groupes de jazz, il a un intérêt particulier pour la musique, ça on le sait. Et bien là, on est exactement dans le cas que vous souleviez tout à l'heure. André Lambotte nous avait dit qu'il serait intéressé un jour à réaliser une pochette pour un enregistrement. Et on avait gardé ça dans le fond de la tête, en disant « Ah ben oui, ça serait bien ». Mais il fallait trouver le projet. Et quand le projet est arrivé, c'est apparu évident. Et c'est apparu évident à nous, producteurs, aux artistes musiciens et à André Lambotte. Et ça donne une superbe pochette. Donc oui, là vraiment, c'est le cas d'un artiste plasticien qui dit « J'aimerais bien un jour si cela peut se passer ».
André Lambotte, une double actualité, celle de votre présence ici à l'École de recherche graphique à Bruxelles, mais aussi à Jambes, encore deux jours, à la Galerie des Tours, une exposition qui a le titre « Between the Lines
». Oui.
Ça veut dire ?
Ça veut dire que j'ai toujours été proche aussi de l'écriture. Je révèle rien de précis. Donc, qui dit écriture dit souvent quand même des lignes horizontales, en tout cas en Occident, des lignes horizontales qui vont de gauche à droite et de haut en bas. Et il se fait qu'entre ces lignes, depuis quelque temps, je travaille de manière plus complexe. Et donc, il se passe entre les lignes autre chose. Ça, c'est assez nouveau dans mon travail. D'où le titre, voilà. Between the Lines.
Surtout quand on entre dans l'exposition qui est présentée à l'ergue, que voit-on ?
On voit deux choses. On voit des œuvres plastiques, des œuvres réalisées pour des pochettes, préexistantes à des pochettes, ou des œuvres qui ne sont pas sur les pochettes mais qui prolongent le travail qui fut fait par l'artiste plasticien à l'époque, ou encore des œuvres d'artistes plasticiens, musiciens que nous avons édités en tant que musiciens, mais que nous montre ici en tant qu'artistes plasticiens. C'est l'œuvre picturale. Et puis nous avons 40 pochettes qui sont encadrées, qui permettent au public de faire un rapport entre la pochette et l'œuvre. Et on n'a pas voulu, dans l'accrochage, mettre cela en lecture immédiate. C'est-à-dire avoir systématiquement le tableau, la photo, la gravure et à côté la pochette et en disant « Tiens, regardez, voilà l'évolution ». Non, il y a des regroupements de pochettes, il y a les œuvres qui sont au CIMES et il faudra que le spectateur fasse un peu un travail de recherche quelque part. Bon, il y aura des indicateurs qui permettront effectivement la reconnaissance, mais un travail de rapport qui se construira en fonction de la volonté aussi du spectateur.
Igloo, label musical, 40 ans. 40 artistes, 40 pochettes d'albums. Exposition à l'ERGUE, École de recherche graphique, du lundi au vendredi, située rue du Page 87 à Ixelles, jusqu'au 12 octobre. Igloo, 40 ans. Avec Christine Jotard, Guy-Rémy Van den Bulk, André Dahl, Pierre Cordier, André Lambotte, Alain Denis et Daniel Sotio. Igloo, 40 ans, par Thierry Jeunicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Thank you.